franceinter.fr.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal d'Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. 4 morts et 3 blessés à Sarcelles hier soir, l'acte désespéré d'un policier en instance de séparation qui a tué notamment son beau-père avant de retourner l'arme contre lui. Les policiers resteront armés hors service, précise à l'instant sur France Inter le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Fin de carrière pour François Fillon, l'ex-candidat à la présidentielle a cédé la place à Bruno Retailleau à la tête de son mouvement Force Républicaine. Les dernières heures de Robert Mugabe au Zimbabwe, le père de l'indépendance qui s'accroche au pouvoir, devrait être exclu cet après-midi dit par son propre parti. Dans ce journal également, des vêtements qui parlent en Turquie. Les salariés d'une entreprise textile en difficulté ont glissé des messages à l'adresse des consommateurs dans leurs produits et ça fait du bruit. La journée mondiale des toilettes, des ONG se battent pour le droit à l'assainissement dont ne dispose pas un habitant sur 3 sur la planète. Et puis le 15 de France, à nouveau défait, battu d'un point par les Springboks. L'encadrement des Bleus veut rester confiant. Juste après ce journal, le grand face-à-face de France Inter Ali Badou au programme ce dimanche.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann et puis un débat autour de la politique de la ville. Doit-on encore parler de territoire perdu de la République ? On évoquera le sujet avec l'un des meilleurs spécialistes de ces questions, le sociologue Renaud Epstein.
Merci Ali Badou, à tout à l'heure.
France Inter.
Un drame sentimental, a priori, hier soir à Sarcelles. C'est donc un policier de 31 ans qui a tué 3 personnes, dont son beau-père, avant d'en blesser 3 autres, sa compagne, sa belle-sœur et sa belle-mère, et de retourner l'arme contre lui. Sa compagne venait de lui annoncer qu'elle le quittait, Benjamin Mathieu.
Ce policier de 31 ans retrouve d'abord son ex-compagne vers 21h hier soir au bas de la rue où se trouve son domicile. Selon des témoins, il l'agresse. Un passant s'interpose. Dominique, 44 ans, sorti acheter des cigarettes. Sa belle-sœur, Noria, est encore sous le choc.
Le policier battait sa femme dans la rue. Mon beau-frère a voulu s'interposer et le policier lui a tiré dessus. Voilà, c'est dramatique.
Le policier tue également un jeune homme, témoin de la scène. Lui aussi n'a rien à voir avec ce qu'il se passe. Eric habite juste en face du lieu de ces 2 meurtres.
Comme j'habite juste à côté, je sais qu'il y a une personne qui est souvent dans sa voiture en fait, en train d'écouter de la musique les soirs. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment pour elle.
Le policier remonte ensuite la rue et se rend au domicile familial. Il abat son beau-père, blesse grièvement sa belle-mère ainsi que la sœur de son ex-compagne. Selon l'ancien maire de Sarcelles et député du Val d'Oise, François Pupponi, la thèse sentimentale est privilégiée.
Et a priori, la jeune fille venait de lui annoncer qu'elle le quittait. Voilà, donc on peut imaginer un drame sentimental, mais qui ne peut pas non plus expliquer complètement une telle folie meurtrière.
L'homme qui n'habitait pas Sarcelles s'est donné la mort avec son arme de service.
Même si le contexte de ce drame est un peu particulier, on constate que depuis le début de l'année, le nombre de suicides a augmenté au sein des forces de l'ordre. 46 policiers et 16 gendarmes se sont donné la mort, selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Alors faut-il leur interdire de garder en permanence avec eux leur arme de service ? Le ministre Gérard Collomb n'est pas pour, bien au contraire. Il vient de le dire dans Questions politiques sur France Inter.
Vous savez, vous êtes face à des contradictions. Par exemple, on m'a demandé dans les transports en commun, l'Île-de-France, où les policiers donc peuvent circuler et où ils peuvent protéger avec leur arme s'il se passe quelque chose, de maintenir. Et donc, par exemple, la présidente de la région m'a dit « Moi, j'offre même la gratuité parce que eux, je sais qu'ils pourront protéger. » Donc, vous êtes chaque fois dans des contradictions qu'il faut évidemment savoir gérer. Cela demande beaucoup d'attention des cadres dirigeants de la police à tous les niveaux. Et dans le JDD de ce matin, le directeur général de la police nationale disait combien effectivement l'action psychologique était importante et combien le management des fonctionnaires devait être quelque chose de très fort.
Conclusion, vous n'avez pas totalement répondu à Karine, parce qu'à un moment, il faut trancher, il faut savoir.
Non, mais ils resteront armés, il n'y a pas de problème.
Voilà, Gérard Collomb avec Ali Badou. Il n'y aura pas de prière de rue à Clichy-la-Garenne vendredi prochain, assure aussi le ministre de l'Intérieur, en ajoutant que les musulmans doivent avoir un lieu de culte pour prier. En politique également, la page Fillon, définitivement tournée. L'ex-candidat des Républicains à la présidentielle, qui s'était fait très discret depuis l'élection, met aujourd'hui un terme officiel à sa carrière en cédant la présidence de son micro-parti Force Républicaine à son plus proche collaborateur, celui qui fut son directeur de campagne, actuel président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. C'était ce matin la passation de pouvoir, Louise Baudet.
Oui, un François Fillon visiblement très ému quand il prend la parole devant cette assemblée de fidèles. Je n'ai rien oublié, vous m'avez porté, défendu, protégé dans la tempête de la présidentielle, vous m'avez tellement aidé. Discours d'adieu donc à huis clos, ce sont des bribes qui parviennent à la presse, restées à l'extérieur, bribes de discours et écho du tonnerre d'applaudissements qu'il a accueilli. À son arrivée, François Fillon s'était fait très laconique.
Très heureux de passer le témoin à Bruno Retailleau.
Il a donc bien décidé de tourner la page de la politique, quoi qu'en dise Isabelle Le Callennec, ex-porte-parole de campagne.
Pas du tout, il n'y a jamais d'adieu en politique. Ce ne sont pas des au revoir. François Fillon a mené le combat pendant la présidentielle. Il est là aujourd'hui, il passe le relais à Bruno Retailleau et c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre.
Une nouvelle aventure sans François Fillon donc, qui à 63 ans travaille désormais comme associé d'une société de gestion d'actifs et d'investissements. Il va bien, il est heureux, assure son entourage. François Fillon qui dit reconstruire sa vie autrement, veut créer une fondation pour la coexistence des minorités dont les chrétiens d'Orient et se consacre aussi à sa défense en attendant son probable procès.
Et son successeur, le nouveau président de Force Républicaine, Bruno Retailleau, n'a pas voulu donner ses préférences pour la présidence des Républicains, mais il défend le favori du scrutin, Laurent Wauquiez, dont la volonté de rassembler ne fait pour lui pas de doute. Quant à Bruno Le Maire, ex-républicain, aujourd'hui ministre d'Emmanuel Macron, lui, il reste fidèle au président et veut faire taire les rumeurs qui évoquaient ces derniers jours des tensions entre lui et les deux têtes de l'exécutif. Le ministre de l'économie le dit très clairement, il se bat pour la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 s'il se représente, car dit-il, le projet de transformation du pays demande du temps.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decaen.
En Argentine, peut-être des nouvelles du sous-marin disparu depuis 4 jours. Des appels de quelques secondes ont été reçus dans la journée d'hier par des bases de la marine argentine qui n'ont pas pu toutefois établir le contact. Le sous-marin n'a donc pas été localisé, mais tout espoir est permis. Sa dernière position connue se situait à plus de 400 km des côtes de Patagonie, au sud du pays. Une dizaine de bateaux et un avion de la NASA participent aux recherches. Les 44 membres d'équipage ont 2 semaines de réserve de vivres et d'oxygène. Vincent Groiselot, rédacteur en chef de la revue en ligne Mer et Marine, au téléphone d'Olivia Ferrandi.
Ces appels, oui, sont quand même encourageants pour la suite et maintenant il faut les confirmer et surtout il faut localiser ces appels, savoir exactement précisément d'où ils viennent. Un sous-marin, c'est pas repérable facilement, quoi qu'on en pense. Surtout, en plus, les conditions météo sont mauvaises. Donc, il a été perdu. Il peut être dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres et c'est compliqué de pouvoir le retrouver. Donc, c'était pas non plus catastrophique de ne pas pouvoir le retrouver dans les 24-48 heures parce qu'il faut des recherches. Même encore, il y a quelques heures, on nous expliquait que la zone de couverture de recherche n'était faite qu'à 80%. Donc, il y a encore 20% à faire. Et peut-être même que dans ces 80% déjà traités, en fait, on est passé à côté du sous-marin sans le voir. Voilà. Donc, il faut effectivement comprendre ce qui s'est passé. Il faut localiser ces appels très courts. Évidemment, on va essayer de détecter, en fait, par l'émission de ces appels, l'endroit d'où ils ont pu être émis. Mais comme ils sont très courts, malheureusement, que le signal n'a pas pu être établi, eh bien, c'est d'autant plus compliqué.
Au Zimbabwe, après l'armée, c'est le propre parti du président Mugabe qui lui demande de céder la place, en tout cas sa jeunesse, qui ne l'envoie pas dire. La Ligue des jeunes du parti exige du vieux chef qu'il démissionne et demande l'expulsion de son épouse Grace Mugabe. Même chose du côté des vétérans de la guerre d'indépendance, qui l'appellent aussi à renoncer. Au lendemain des manifestations monstres d'Harare, la capitale, le comité central du parti au pouvoir devrait tout à l'heure prononcer la destitution du président. En Turquie, les messages étaient glissés, non pas dans une bouteille, mais dans un vêtement. C'est le moyen qu'ont trouvé les salariés d'une usine de textile pour alerter le grand public sur leur situation. 155 salariés qui n'ont pas été payés depuis des mois, avant que le patron mette la clé sous la porte, du jour au lendemain. L'usine était un fournisseur du géant espagnol Zara, d'où l'idée des salariés d'alerter les clients par le biais de messages clandestins. Une bonne idée qui a bien fonctionné, bien relayée notamment sur les réseaux sociaux. Alexandre Billette.
L'usine Bravo a été fermée il y a plus d'un an, mais rien n'y fait malgré des mises en demeure, des rencontres avec Zara, des manifestations devant le consulat espagnol. Et depuis 3 semaines, le syndicat de l'usine a opté pour un autre moyen, glisser dans les vêtements de Zara un message « Je n'ai pas été payé pour fabriquer ce que vous achetez ». Une méthode qui a porté ses fruits, explique cette ouvrière qui a participé à la campagne.
On en a mis un peu partout, sur les cintres, dans les poches des vêtements. Et les consommateurs ont réagi tout de suite. Zara paie les ouvriers. On a vu ces messages passer.
Pour Asaletin Aslanoglu, le responsable du syndicat DISC, ce sont ces grandes entreprises qui doivent assurer le respect des droits des travailleurs.
Si les travailleurs de l'usine Bravo ne reçoivent pas leur salaire, c'est évident que d'autres petites usines vont fermer de la même façon. Et les premiers responsables, ce sont ces grandes marques. Tout le monde doit bien le comprendre.
Et le syndicaliste le promet, il est prêt à poursuivre la campagne et même à l'étendre à travers l'Europe, puisque les vêtements fabriqués par Bravo étaient distribués à l'échelle du continent. Istanbul, Alexandre Billet, RFI pour France Inter.
En France, c'est la mauvaise nouvelle de cette fin de semaine pour les salariés d'Ascométal en Moselle. Le fabricant d'acier devrait être placé en redressement judiciaire dès demain ou après-demain. L'entreprise qui fournit Renault, Fiat et la SNCF emploie, tout secteur confondu, 1700 personnes, dont 450 en Moselle, à Gondange. Des salariés qui ont de quoi s'inquiéter, évidemment, mais les syndicats sont pour l'instant plutôt confiants pour la suite. Jordan Musica.
Parce que passer par la case redressement judiciaire, c'est une façon de mieux rebondir, estime le syndicat. De cette manière, les dettes de l'entreprise seraient effacées. En 2014, Ascométal avait déjà été placé en redressement judiciaire et l'entreprise avait trouvé un repreneur. Mais depuis, le chiffre d'affaires est en baisse. 500 millions d'euros en 2015, 377 millions en 2016. On est moins sexy qu'on cède un syndicaliste. En revanche, 2017, c'est l'année de l'embellie. Les carnets de commandes sont à nouveau pleins et c'est ça que regarde un repreneur, explique un délégué du personnel. 3 Européens sont intéressés. Les négociations dureront entre 1 et 3 mois. C'est le tribunal de grande instance de Strasbourg qui va décider. Le ministère de l'économie a reçu les représentants du personnel jeudi. Il leur a promis de suivre le dossier et d'apporter son aide à Ascométal.
France Inter, Yves Decaen.
S'apprête à sourire et pourtant ce dimanche, journée mondiale des toilettes est l'occasion de rappeler l'importance des installations sanitaires dont l'absence pour un habitant sur 3 dans le monde a de graves conséquences sur la santé et le développement. 2,5 milliards de terriens n'ont pas accès aux toilettes sur le continent africain et en Asie du Sud-Est principalement, où la contamination des eaux et de l'environnement est à l'origine de nombreuses maladies dont plus de 800 000 personnes sont victimes chaque année. L'accès à l'assainissement est pourtant un droit fondamental reconnu depuis 2010 par les Nations Unies, un droit que défendent une trentaine d'ONG françaises regroupées au sein d'un collectif, Coalition Eau, dont Sandra Métayer est la coordinatrice. Elle est avec Yann Gallic.
Il y a un tiers de la population mondiale en fait qui n'a pas de toilette. Donc ce sont des personnes qui sont contraintes en fait soit de déféquer en plein air, dans les champs, dans les buissons, dans les cours d'eau, ou bien en fait d'utiliser des systèmes de toilettes qui sont pas adéquats et qui font que les excréments se propagent. Ça entraîne une contamination de l'eau principalement. Aujourd'hui, on a 1,8 milliard de personnes qui consomment une eau contaminée par des matières fécales quotidiennement. Et du coup, la maladie en fait la plus basique, c'est la diarrhée. Dans le monde, on a 1000 enfants de moins de 5 ans chaque jour qui meurent de cette maladie. Les enfants, lorsqu'ils sont malades, du coup, ils ne vont pas à l'école. Donc, le manque d'accès aux toilettes entraîne même un absentéisme scolaire. Et puis, il y a aussi des conséquences économiques. Ça entraîne un fort coût de dépenses médicales pour les pays. Et puis, des pertes de temps de travail. Donc, il y a un chiffre de l'ONU qui estime que dans le monde, on perd 260 milliards de dollars chaque année par manque de toilettes.
Sur ce même sujet du droit à l'assainissement, l'association Action contre la faim a lancé une campagne de sensibilisation dans les toilettes publiques de Paris. En sport, ça devient problématique pour le 15 de France, dont la nouvelle défaite hier, la 5e de suite, commence à peser lourd dans la balance. Battu d'un point seulement, 18-17 par l'Afrique du Sud. Mais c'est un petit point qui fait la différence entre ça va mieux et rien ne va plus. Les Springboks étaient pourtant à portée des Bleus, qui se sont encore montrés maladroits et brouillons, en manque d'inspiration. Pourtant, on veut y croire encore, Jérôme Val. Ce matin, l'encadrement du 15 de France restait optimiste.
Oui, aurait discours discours est en effet résolument optimiste de la part de ce staff tricolore. Discours parfois déroutant, il faut bien l'avouer, au vu des prestations des Bleus ces derniers mois. Une équipe qui donne l'impression de ne plus progresser et qui affiche encore de lourdes carences. Un chiffre, hier soir, 22 ballons perdus face à l'Afrique du Sud. 22 déchets monumentaux. Et pourtant, on n'a pas à rougir de cette prestation, a résumé ce matin l'entraîneur des arrières, Jeff Dubois, très loin de la sinistrose ambiance.
Je suis agacé parce que j'ai envie de gagner moi aussi. Et j'ai envie que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content, que l'équipe de France gagne les matchs. Et je comprends l'impatience de tout le monde. On croit en ce projet de jeu, les joueurs y croient aussi. Il manque toujours un petit quelque chose, c'est ça qui est rageant.
Rageant et sans doute un peu plombant hein, pour le moral des troupes. Évidemment, la question de l'avenir se pose, l'avenir du staff et du sélectionneur. Mais pour Yannick Bru, l'autre adjoint de Guinoves, cette question n'est pas encore d'actualité.
On a un président qui connaît les jeux, qui connaît les hommes, qui fait un diagnostic assez précis de la situation et avec qui on a des rapports, en tout cas pour l'instant, d'une très grande clarté.
Bernard Laporte, président, donc, qui pourrait s'exprimer dans l'après-midi. En attendant, Yves, il reste à affronter le Japon dans une semaine. Un match qui ne devait être qu'une formalité, mais voilà, avec cette équipe de France inquiétante et en panne de résultats, on peut vraiment avoir peur.
Tout est possible. Et pendant ce temps, les Anglais, eux, ont dominé les Wallabies, 30-6. Allez, la traditionnelle vente aux enchères des hospices de Beaune, c'est cet après-midi. Plusieurs milliers de bouteilles de vin blanc et rouge mises en vente au profit de l'hôpital. Et comme à chaque édition, au profit également de quelques associations caritatives. Plus de 8 millions d'euros avaient été récoltés l'année dernière. Le Bourgogne ayant été épargné cette année par les aléas climatiques, 2017 devrait être un excellent cru, tant en quantité qu'en qualité. Plus de 150 000 personnes sont attendues sous les halles qui font face à l'Hôtel Dieu.